Richaud, bonjour.
Bonjour Sandrine.
Soyez la bienvenue, vous êtes psychologue clinicienne, vous êtes spécialisée dans les troubles justement du comportement alimentaire. On va donc demander à nos auditeurs qu'ils viennent nous raconter s'ils souffrent justement d'un trouble de l'alimentation et si oui, lequel. Vivent-ils peut-être avec quelqu'un dans la famille, un conjoint, une compagne, un enfant, un ado qui ait des troubles de l'alimentation, que ce soit plutôt de la boulimie, de l'anorexie, de l'orthorexie? Y a-t-il peut-être un aliment qui vous rebute ou une famille d'aliments particulièrement et si oui, lesquels? Comment et quand ce trouble s'est-il déclenché? En êtes-vous sorti? Et comment avez-vous fait si vous aviez souffert d'un trouble de l'alimentation? Ça arrive souvent, notamment à l'adolescence, et on en parlera. Nous allons donc parler cet après-midi des troubles de l'alimentation avec Ingrid Richaud qui nous accompagne, qui est psychologue clinicienne, et avec Antoine Guillaume. Et on va donc démarrer avec la chronique d'Antoine.
Mais oui, manger, c'est ne pas mourir. Je sais que techniquement, c'est plutôt un raccourci, mais dans l'absolu, c'est quand même l'idée. Alors forcément, au cours des quelques petits millénaires qui ont eu l'occasion d'être témoins de toutes les belles catastrophes causées par les humains, le concept de l'alimentation a pris une place centrale et majeure dans nos comportements. Et au gré de notre développement physique et technologique, l'histoire de l'alimentation s'est écrite d'abord par ses impératifs et puis ensuite par ses particularités. Arriver à trouver à manger, arriver à conserver ce qu'on veut manger, être capable de varier ce qu'on va manger et plus tard prendre du plaisir à manger, voire même élaborer minutieusement un plan de ce qu'on va manger pour y trouver du plaisir. Manger donc pour confirmer que le corps existe, que le corps vit. Pas étonnant du coup que lorsque ce corps traverse une période de détresse faible ou conséquente, ce soit par le biais de l'alimentation que certains des signaux sont lancés. Or, comme s'ajoute à l'importance du phénomène alimentaire la complexité de notre rapport à l'alimentation, en fonction des ressources du pays dans lequel on vit, de notre position sociale, de nos revenus et évidemment de l'éducation qu'on a reçue, chacun vit sa manière de s'alimenter comme une expérience complètement différente. Et c'est à cet endroit du concept qu'entre en jeu le contexte social qui, pour des raisons X ou Y, peut à tout moment venir faire basculer l'équilibre qu'on est arrivé à trouver ou pas. Parce qu'évidemment, il y a des gens qui ont trouvé un équilibre et d'autres pas. Parce que si manger est une action complètement mécanique, c'est bien notre cerveau qui décide qu'elle s'opère de façon heureuse ou troublée. Et les déviances de comportement alimentaire sont à envisager de façon sérieuse, non seulement parce qu'elles peuvent tuer dans les cas les plus graves, mais avant tout parce qu'elles témoignent des dysfonctionnements de nos sociétés, parce qu'elles viennent surligner les points de faiblesse de nos codes et de nos référents. Tout ce qu'arbitrairement l'humain veut normativer, rendre global et immuable, alors qu'en fait notre univers est constamment complexe, multiple et non figé. Pas étonnant par exemple que l'anorexie frappe l'adolescent qui traverse une période de grande instabilité émotionnelle, physique et relationnelle, et c'est régulièrement le facteur humain qui amène le trouble de comportement alimentaire. Alors on devrait réviser notre manière d'interagir, de consommer, de croire que consommer c'est interagir. Seulement dans le schéma individualiste qu'a pris l'Occident, chacun veut rattraper ses propres incohérences plutôt que de comprendre ce qui, dans le groupe humain, a pu les causer. En fait, plein de solitude côte à côte sans un vrai éveil commun. Et bien entendu, les thérapies cognitives, interpersonnelles et la médication s'avèrent de très bonnes aides quand elles sont pratiquées avec intelligence. Mais quand va-t-on prendre une vraie distance sur les causes des perturbations? Analyser nos erreurs d'être humain plutôt que de nous focaliser sur l'éradication systématique des symptômes. Question à l'avenir de construire un fonctionnement harmonieux et apaisé dans lequel l'apparition de tels troubles est vraiment minimisée. Allez, je vous laisse. Il faut que j'aille manger des frites avec Maria Del Rio.
Écoutez, je vous souhaite bon appétit, hein. À cette heure-ci, là, en plus, elle est capable d'en manger.
C'est vrai?
Ah oui, avec beaucoup de sauce alors. On va parler effectivement des troubles de l'alimentation avec Antoine qui va rester tout au long de la chronique et avec notre invitée Ingrid Richaud qui est psychologue clinicienne spécialisée dans les troubles du comportement alimentaire. Je lisais tout à l'heure des chiffres, alors c'était un site suisse mais qui était relativement bien fait, qui estimait en tout cas que 9 à 10% des femmes adultes souffraient de problèmes liés à l'alimentation, avec des problèmes alimentaires plutôt compulsif. Pour les hommes, on était à 10 à 15% d'hommes adultes. Évidemment, on est en Suisse, donc je ne sais pas si on peut vraiment transférer ça chez nous. Est-ce que vous trouvez qu'il y a de plus en plus, avec les années, de troubles de l'alimentation auprès des adultes?
Alors, oui. En fait, les troubles alimentaires, donc on en parle de plus en plus aussi, donc c'est peut-être, je ne sais pas si on peut dire qu'il y en a plus aujourd'hui, mais en tout cas, on en parle plus.
On éveille plus l'attention, oui. La conscience par rapport à ça.
Voilà.
Chez l'adulte, on le disait, chez l'enfant, c'est plus rare même si. Et puis, chez l'adolescent, c'est là que les chiffres sont absolument incroyables. On passe parfois le taux des 50% chez les jeunes filles, notamment.
Oui, alors il y a énormément de pression sociale forcément pour les jeunes filles. Maintenant, il y a des garçons aussi qui souffrent d'anorexie. On en parle un peu moins parce que c'est vrai qu'en termes de pourcentage, ça reste une minorité. Mais forcément, on touche à un âge où l'identité, elle n'est pas encore bien construite. Donc l'adolescent, il se pose plein de questions. Il n'est pas très satisfait. En général, ça part d'une insatisfaction corporelle.
Oui, il n'est pas bien dans sa peau, c'est le cas de le dire.
Voilà. Mais ça peut être aussi lié à quelque chose de plus systémique, de plus familial.
Ah ben on en parlera justement des causes. Ah ça y est, on débat, il y a les pour, il y a les contre, ceux qui mangent du massepain, ceux qui n'en mangent pas.
Quoi?
C'est
quoi?
le mot qui fait saliver, c'est le mot pavlovien d'Antoine Guillaume.
Mais non.
Si, un petit peu quand
massepain,
même.
Massepain, oui. Non, c'est une pâtisserie au massepain, mais c'était une autre.
Oui, famille. Mais bon, oui. Je résume avec le mot massepain. Hein,
j'en ai vu l'autre
facile.
Jour dans la vitrine du magasin, j'ai craqué.
Oui, vous avez bien fait. Voilà. Et ça vous a fait du bien ou pas ?
À fond.
Ah,
mais
ben
c'est
voilà.
Parce qu'on en parlait hors antenne avec notre spécialiste. On se disait, mais les comportements orthorexiques. Bon, l'orthorexie, c'est cette idée.
Orthodroit grec.
Voilà, droit grec bien carré. On ne fait pas une erreur de parcours. On doit manger sain, bio. On ne peut pas toxifier son corps. On ne doit avoir que des bons ingrédients avec des bons produits. Donc voilà. Et moi, parfois, je me dis, ah, mais je suis un peu comme ça. Et puis, il y a ces quelques fois par mois où, dans le rayon du magasin, je craque pour un grand paquet de chips au sel, package family, évidemment.
Oui.
Voire pickles. Pickles. Oh. La super baleine d'après chips aux pickles. Et je le mange en entier. Et donc, on en discutait hors antenne. Et c'est bien, apparemment, d'avoir ça. Parce que ça veut dire qu'on contrebalance. Je ne suis pas devenu un orthorexique fou.
Un peu quand même, hein.
Fou, oui, mais.
En tout cas, il faut voir si t'en souffres pas. Si t'en souffres, peut-être que t'as un trouble.
De l'orthorexie ou du paquet de chips au...
Il souffre des deux, c'est ça le pire.
Non, le paquet de chips, c'est pas grave en soi. Hein.
Non, non.
Il faut bien se faire plaisir. Donc, mais c'est toute une question d'équilibre. Mais si l'orthorexie, c'est quand même une obsession de manger sain. Donc, si tu manges ce paquet de chips et que tu culpabilises et que tu t'en veux énormément après.
Non, mais alors je ne suis pas orthorexique.
Voilà.
Non. Aucune culpabilité.
Je voudrais revenir sur l'orthorexie parce que c'est un terme finalement qui est assez récent en termes d'alimentation et de psychologie. Est-ce que c'est aussi quelque chose qui est né il y a peu de temps parce qu'on est tombé dans cet extrême de tout peser, tout mesurer, d'être hyper sain, de faire du coup attention à sa ligne, etc. Est-ce que c'est né en même temps ou c'est un trouble qui existait déjà peut-être du temps de l'Antiquité, j'en sais rien. C'est plutôt quelque chose d'assez récent lié à notre civilisation.
Je pense bien que c'est plutôt récent. Maintenant, j'ai pas une certitude absolue sur ce que je dis, mais clairement ici il y a une énorme pression à manger sainement de plus en plus et puis on peut savoir exactement ce qu'on trouve dans chaque aliment, là, au niveau des nutriments, au niveau de toutes les crasses qu'on peut retrouver aussi, des produits chimiques. On a développé une vraie peur de tout ça, donc je pense vraiment que c'est né plutôt dans nos temps modernes, justement, ce genre de troubles.
Alors l'orthorexie, c'est que vous définiriez comment, vous ?
Ben exactement comme
Antoine l'a dit.
Comme l'Antoine l'a dit, oui. Donc vraiment l'obsession de manger sainement, c'est pas le droit à l'écart.
Pas le droit à l'écart.
Ah non, pas le droit à l'écart.
Mais parce qu'en plus les orthorexiques, ça n'est même pas uniquement manger des bons produits, c'est calculer les quantités de sel pour être sûr de ne pas dépasser un certain taux et ne pas.
Exactement.
En fait, les orthorexiques sont obsédés par l'idée de se toxifier à un moment. Et donc ils sont totalement en contrôle de tout, mais c'est
alors,
pas la cuisine.
Aussi,
c'est ce que j'allais dire. Du coup, vous ne participez plus à un repas entre copains, mais plus au restaurant.
Ça fait plus profiter, en fait.
Mais c'est pas de la cuisine, en fait. C'est de l'arithmétique.
Du laboratoire.
C'est de la métrique, oui.
Et alors, c'est pas sain non plus, en fait. Parce que même s'ils calculent tout au niveau des nutriments, il y a quand même un équilibre qui manque, un équilibre émotionnel. Et même au niveau nutritif, c'est probable qu'il leur manque des graisses et du sucre, parce que même ces choses-là sont quand même nécessaires pour avoir un bon équilibre.
On parlait de l'émotionnel. C'est vrai que tout ce qui est lié à la bouche, c'est lié au plaisir, c'est lié à l'alimentation. Donc, peu importe le trouble, j'ai envie de dire que ce soit l'anorexie, la boulimie ou l'orthorexie ou autre, il y a vraiment une part importante d'émotionnel qui revient là-dedans. Raison pour laquelle vous êtes psychologue et que vous êtes avec nous en studio cet après-midi, ce n'est pas que biologique ou physiologique.
Ah oui, non. L'alimentation, c'est très émotionnel. D'ailleurs, je demande souvent ça à mes patients, qu'est-ce qui vous fait manger? Est-ce que c'est vraiment votre faim physique ou est-ce que c'est l'envie? Et dans tous les cas, quand ils réfléchissent réellement, c'est l'envie qui fait qu'ils mangent. Et qu'est-ce qui fait qu'ils arrêtent de manger? C'est aussi l'envie d'arrêter. C'est pas le fait de
plus
avoir faim.
C'est pas la satiété, oui. Parce que c'est vrai que la définition d'un comportement alimentaire dit sain fonctionne avec deux sensations, la faim et la satiété, qui sont visiblement deux sensations qui sont perdues, qu'on peut perdre facilement,
même à l'école, on ne nous apprend pas le principe de satiété, on nous oblige à terminer une assiette, même si on a trop, mais en revanche, on nous explique jamais ce que c'est d'avoir juste assez pour être bien. C'est la satiété, le moment où on a, le corps comprend qu'il n'a plus besoin de plus. Alors après, c'est pas parce qu'il a plus besoin de plus qu'on va pas quand même manger un dessert, mais c'est vrai que la sensation de satiété, c'est un truc qui est pas du tout expliqué clairement dans nos procédés alimentaires.
Ça veut dire que l'impact socio-économique, mais aussi familial, l'éducation va avoir un rôle important sur la manière dont on va gérer notre alimentation.
Tout à fait. Les normes aussi, il faut manger une certaine heure, c'est beaucoup plus pratique. On regarde plus l'aspect pratique en fait, et puis l'aspect socialisation plutôt que vraiment s'écouter. Les bébés font ça très bien, donc c'est juste que ça se perd après justement par l'éducation, et donc ça fait partie, je pense, d'une bonne éducation de garder une écoute de ses sensations alimentaires.
Oui, c'est ça, ne pas forcer à terminer son assiette.
Oui, puis les traditions même alimentaires, en Europe du Nord, on a des traditions d'aliments à chaque repas qui sont, quand on voit les populations asiatiques par exemple, ce sont des gens qui mangent, enfin pas tous évidemment, faut pas généraliser, mais il y a beaucoup dans ces cas-là de gens qui mangent sur l'entièreté de la journée de petites quantités parce qu'ils sont très actifs, et du coup on a probablement moins de problèmes de surpoids et ce genre de choses, enfin quoi que avec la qualité des aliments, j'imagine.
Tout dépend
quand même
de l'écoute de soi. En fait, on peut manger une fois par jour, comme on peut manger 10 petits repas par jour et quand même avoir un trouble alimentaire ou pas. Ça dépend si on s'écoute,
ça
si on a un bon métabolisme. Voilà.
Ça dépend des personnages aussi, parce que Obélix, il peut manger 10 sangliers sur.
Mais est-ce qu'il court? Moi, je me suis toujours demandé, parce qu'il frappe très fort, Obélix.
Oui.
Mais est-ce qu'il sait courir vite?
Oui, il court aussi très vite.
Oui, c'est vrai.
Oh, oui, bien sûr. Si.
Et en talons.
Ça n'existait pas à l'époque.
Ah si, je les ai vus à la Gay Pride.
Vous avez vu Obélix en talons?
Il y avait Obélix et Astérix en talons.
Antoine, ça va mon lapin?
Ah oui, c'est juste parce que j'ai dit que j'aimais bien manger des carottes.
Mais
c'est
oui,
ça
mais oui, je vous ai dit que lapin.
Encore une fois,
en Antoine,
on parlait des obsessions. Les moments où on a des obsessions alimentaires, et là pour le moment j'ai tout le temps, je sais pas pourquoi, je me suis dit ah, ça va être l'été, la peau mange des carottes bio, essaye de
prendre des bêta-carotènes,
comme ça, oui, bêta-carotène plutôt que d'avaler des gélules pharmaceutiques,
prends des carottes
mais du coup j'en suis arrivé à demander à ma collègue qui elle a fait un régime carotte. Ok, vous voyez, ah, le régime carotte, mais qui mange énormément de carottes. Mais toi, tu manges combien? Il faut manger combien de carottes bio pour avoir vraiment des effets positifs? Elle me dit, mais tu n'y arriveras jamais. Il faut manger au moins 1,5 kg de carottes par jour. Et pendant une seconde, je me suis dit, ah oui, c'est beaucoup. Et puis tout de suite après, je me suis dit, mais attends, parce que 4 grosses carottes, ça fait déjà presque 250 grammes.
Oui, plus.
Donc,
hein.
Si j'en prends, en fait, si je fais, je peux calculer que, en fait, non,
mais
le kilo et demi
pas...
de carottes, ça va. Et après, je me suis dit, mais non, mais tu vas pas bouffer 1 kg et demi de carottes.
Mais pas
par
du
jour.
Jus de carottes bio, il y en a, hein. C'est pas top à boire.
Oui,
mais,
c'est ça. Et en plus, dans les jus, en fait, tout ce qui a été processé, c'est un peu compliqué. J'ai toujours est-ce que je ne suis pas en train de tomber dans leur, faut pas que les autres l'aient fait pour moi, je dois le faire moi-même. Mais en tout cas, j'ai une obsession alimentaire pour le moment sur la carotte, et je me disais, est-ce que c'est grave? Mais en fait, non, encore une fois, dès qu'on l'analyse, si on arrive à se freiner soi-même, je crois que c'est ça la solution, en fait. C'est de pas plonger bêtement en se disant, ça, c'est le bon aliment pour moi, j'y vais.
Alors, je vais vous avouer, Ingrid Richaud, qu'on se connaît avec Antoine depuis maintenant 5-6 ans, vraiment bien,
oui,
je veux
oui.
dire. Voilà. Et qu'à chaque fois, je découvre quelque chose, un pan de sa vie, une étagère de son armoire, voilà.
Une anecdote sur mes parents.
Une anecdote, voilà. C'est-à-dire que Antoine, c'est un petit peu la boîte à surprise, le calendrier de la mais toute l'année. Vous ouvrez, vous ne savez pas ce qu'il y aura dedans.
Non, mais cela dit, j'imagine qu'avec vos patients, vous devez aussi avoir des surprises, non?
Être focalisé sur certains aliments?
Oui, ou découvrir des choses que vous ne pensiez même pas
En termes de troubles alimentaires. Est-ce que ça se limite uniquement à les trois principaux qu'on connaît, anorexie, boulimie, orthorexie, ou est-ce qu'il y a des dérivés de ces troubles?
Alors, il y a d'autres troubles alimentaires. Je connais pas tous les troubles, les noms, parce que voilà, mais en tout cas, il y a par exemple des personnes qui se sentent obligées de boire trop d'eau.
D'accord.
Les potomanes, voilà, par exemple. Enfin voilà, mais il y a d'autres dérivés.
Ça reste un trouble alimentaire aussi, oui, lié aux boissons.
J'avais lu sur un site sérieux. pas sur les sites oh mon Dieu, j'ai une petite griffe, qu'est-ce que j'ai, ah, un cancer forcément. Non, j'avais lu un truc sur la potomanie, il y a des gens qui boivent parfois jusqu'à 50 litres d'eau sur une journée.
C'est extrêmement dangereux.
C'est très mauvais, ouais.
Complètement décalé de la réalité, mais 50 litres, parce que je me dis déjà quand on boit son 2 litres et demi conseillé, on a parfois un peu du mal, mais je me disais 5, mais là il y a vraiment un problème psychologique.
Oui, bien sûr. Oui, c'est vraiment très dangereux.
Ça dénutrit, ouais, c'est vraiment.
Est-ce qu'il y a une frontière, bien tracée, très claire et très nette entre les différents types de troubles de l'alimentation? Est-ce qu'on est forcément à tendance boulimique et qu'on va le rester, ou est-ce qu'on peut passer de boulimique à plutôt anorexique, voire même orthorexie? Est-ce que on a forcément que un seul des troubles alimentaires?
Non, pas du tout. On peut en avoir plusieurs en même temps. Ça, c'est assez souvent, on peut constater que les personnes anorexiques vont aussi développer un trouble boulimique. Après une longue période de jeûne, elles vont passer dans une période de compensation. On peut aussi à un moment donné être guéri de ça, mais retomber dans l'orthorexie, enfin, et puis un jour devenir obèse. Enfin voilà, non, franchement, il y a pas de limite, c'est pas
hermétique. Pas les hermétique troubles d'alimentation entre eux ne sont pas hermétiques. Vous disiez, on peut être guéri d'eux. Ça veut dire que, sauf cas extrême, et on va pas citer, par exemple, l'anorexie mentale qui fait des dégâts incroyables, en termes de la boulimie aussi, mais de manière générale, un trouble de l'alimentation peut être guéri, on peut s'en sortir.
On peut s'en sortir. Alors après, il y a des événements de vie qui peuvent faire qu'on replonge dedans, mais forcément, si on a les bons outils, on a été bien encadré avec un aspect psychologique quand même. La partie psychologique est très importante. Ouais. Donc si cette personne a bénéficié d'une aide psychologique avant, en tout cas, normalement, si elle rechute, ça sera pour moins de temps. Et elle pourra vite remonter la pente.
Ah oui, c'est ça. Donc, il ne faut pas baisser les bras systématiquement si on fait une rechute, parce qu'on vit un moment difficile.
Est-ce qu'il y a des comportements alimentaires induits dans l'enfance par l'éducation qu'on reçoit, parce que nos parents nous induisent à nous comporter de telle ou telle manière par rapport aux aliments, qui favorisent l'accès à un trouble alimentaire?
Si je vous dis depuis que vous êtes tout petit, Antoine, ne mange pas, parce que tu vas finir par être gros. Plus tard, tu seras gros. Oui. Non, si on vous rabâche les oreilles systématiquement avec ça, je pense que ça peut faire des dégâts quand même.
Alors ça, c'est une des choses justement qui peut favoriser effectivement l'émergence d'un trouble alimentaire. Donc le fait d'interdire certains produits, d'être très rigide dans l'éducation, voilà, il faut absolument manger ceci, pas cela. Donc le contrôle aussi au niveau des portions, au niveau, enfin tout ce qui coupe l'enfant de son corps en fait, de le forcer à manger avec sa tête, avec des règles bien rigides.
Plutôt qu'avec ses envies et son instinct.
Qu'alors il va probablement faire un rejet de ça et tomber dans des extrêmes après, ou bien parce que justement ça le déforme complètement, enfin les deux.
Les deux, à mon avis.
Alors c'est pas une cause à effet, mais en tout cas c'est un lien qui peut arriver effectivement. Ouais. Ouais. Il peut passer dans un autre extrême, soit par rébellion, ou alors voilà, manger en cachette aussi, parce que voilà, à un moment donné, manger en cachette, malheureusement, ça fait qu'on mange davantage parce qu'on culpabilise, donc voilà, ce genre de choses.
Oui, il y a même des adultes qui malheureusement souffrent de ça et mangent en cachette, par exemple, de leur compagnon ou de leur compagne, qui estiment qu'il est en surpoids, qui en arrive à manger en cachette.
On compense parfois aussi les problèmes affectifs par l'alimentation.
Ah bon, oui.
Et c'est probablement aussi un.
Oui, tout à fait.
Je vous lis un petit message d'Amandine qui nous a envoyé ce SMS. Et le début de son message dit ceci: moi, tombée dans l'anorexie en 2005, ma vie sociale s'était totalement délitée. J'ai perdu des amis, des années de jeunesse. J'ai perdu tous mes kilos. J'ai fait du sport, nous dit-elle. Et bref, je vous résume ce qu'elle nous dit. C'était: ce qui est dur, c'est d'affronter le regard des autres, leurs mots et leurs jugements, que l'on soit en surpoids, en sous-poids ou qu'on ait des troubles de l'alimentation. C'est vrai que vous le disiez tout à l'heure, on a tendance parfois à s'isoler socialement. Parce que quoi? Parce qu'effectivement, au-delà de sa culpabilité, de ce que l'on vit, des sentiments de honte aussi, le regard des autres est plus difficile à supporter?
Alors, le regard des autres est plus difficile à supporter, surtout quand le regard de soi à soi est déjà
compliqué,
effectivement. Donc ça, c'est tout le travail thérapeutique justement à mettre en place, c'est de changer son regard sur soi, de cultiver en fait un regard plus bienveillant. Voilà, tout ça, il y a des éléments peut-être que je pourrais mentionner plus tard.
Ouais. On va donc accueillir Caroline qui est à Jemappes-sur-Sambre. Bonjour Caroline.
Bonjour.
Comment ça va?
Ça va très bien, merci.
Ça va bien? Alors, vous avez celui que vous avez baptisé dans votre message, bébé bonheur, qui a 21 mois, c'est ça?
Oui, 21 mois déjà, oui.
C'est un petit garçon ou une petite fille ?
Un petit garçon.
Ok. Et vous êtes enceinte du deuxième.
Oui.
Alors, qui dit grossesse, on a fait un sujet la semaine dernière là-dessus, sur l'alimentation des femmes enceintes, dit aussi nausée. Du coup, vous grignotez, en tout cas, vous mangez un petit peu plus régulièrement en petite quantité pour essayer de limiter les nausées, ce qui est plutôt pas mal. Oui. Et vous vous posiez une question, non pas par rapport à vous, mais par rapport à votre petit garçon.
Oui, ben oui, parce que je ne sais pas si c'est de limitation, mais chaque fois qu'il me voit manger, ben il veut manger aussi.
Oui.
Donc, il dit, ah, maman mange, bébé mange. Donc, je ne sais pas si, je ne pense pas, enfin, sa courbe est bonne.
Il pense sur poids.
Non, pas du tout, voilà. Pas du tout. Bon, il a des bonnes joues, mais ça, c'est pas très très grave en soi. Il ne mange que des bonnes choses, parce que bon, ben, c'est souvent des fruits, ou ça va être des Kellogg's Nature, ou ce genre de choses, ou un bibi.
Oui.
Mais il mange quand même pas mal. Moi, je me rends compte que, parce que évidemment, aux repas principaux, il mange également, et il mange la même chose que nous, et bon, ben, je me suis retrouvée
mais Caroline, à quelques... un enfant qui mange, c'est plutôt bien, non ?
Oui,
s'il goûte
oui,
à tout.
Mais oui, mais c'est un peu effrayant.
Attendez, moi, ma fille, elle a 15 ans, j'ai l'impression qu'il y a un trou dans sa chaise. Hein, vous la verriez manger. Non, mais c'est vrai. Mais il est en pleine croissance. Donc, s'il bouge, il saute, il remue.
C'est certain.
Mais oui, je pense qu'il n'y a pas. Et puis, l'imitation, c'est une chose. Mais j'ai envie de dire, Ingrid, un enfant qui est gourmand de nature, qui a envie de goûter à tout, qui n'est pas en problème de surpoids, qui est en pleine croissance, c'est plutôt un élément positif.
Ah oui, il ne faut pas le restreindre par rapport à ça, peut-être regarder un peu au niveau de son ressenti, qu'est-ce qu'il a l'air d'exprimer, est-ce que c'est plutôt de la joie de partager ce moment-là avec vous
Oui, non, mais de toute façon, dès qu'il y a quelque chose dans son assiette, il est content.
Ah bah alors tant mieux, non, bah attendez, parce que viendra peut-être le moment où un jour, soudainement, les petits pois ne lui plairont plus du tout. Caroline.
Oui, possible.
Ah,
mais c'est ça, c'est l'occasion de lui faire essayer plein de choses maintenant. Mais non, mais pas dans le sens où il faut faire des expériences. Mais c'est vrai que s'il a un plaisir à manger parce qu'il voit maman manger et qu'elle a aussi du plaisir, parce que j'imagine que ce que vous mangez quand vous faites ces petits encas, c'est des choses qui vous plaisent, puisque avec les nausées, ça doit pas être facile.
Mais
c'est super
dépend,
de pouvoir.
Oui. Ouais. Ça dépend. Disons que parfois c'est en 5 minutes, je me rends compte qu'il faut que je mange, donc je mange. Premier truc que j'ai sous la main, donc ça dépend un petit peu.
Et c'est chaque fois ce que vous mangez qu'il a envie d'essayer de manger, c'est ça ? Ou bien pas forcément ?
Pas particulièrement, c'est le fait que maman mange, bébé mange.
Ah ben voilà, mais j'allais rebondir là-dessus, parce que vous lui avez expliqué évidemment qu'il y avait bébé dans le ventre, et que vous mangez pour que bébé grandisse.
Oui.
Évidemment, lui, il est tout seul pour l'instant à la maison. L'arrivée d'un petit frère ou d'une petite sœur, d'un bébé, ça reste quand même, alors je suis pas psychologue Ingrid, mais pour avoir eu 2 enfants, je sais par quelles étapes ils passent, ça peut être très angoissant pour un enfant. Et donc, dès le début, il veut un peu faire tout comme bébé aussi.
Ça, c'est possible, c'est une possibilité, effectivement. Il faut un peu regarder, mais quelle est votre inquiétude, en fait, là-dedans ?
Mais simplement, la raison pour laquelle il mange comme ça, est-ce qu'à un moment, est-ce que je dois l'arrêter ou est-ce que ça ne porte pas de conséquences de le laisser manger quand il le réclame, entre guillemets ? Est-ce que ça peut être de la gourmandise ? Parce qu'on dit toujours que les enfants deviennent un petit peu gourmands après, ne le sont pas à la naissance, mais ils deviennent. Donc c'est juste pour éviter de partir justement dans des problèmes alimentaires, bien que je me rends compte qu'il est encore petit et que voilà, il ne mange que des choses saines pour la plupart du temps en tout cas. Donc je suis un petit peu stressée à l'idée qu'il mange comme ça de manière compulsive.
Et Caroline, pourquoi vous n'en parlez pas au pédiatre ? Posez peut-être la question au pédiatre.
Je dois le voir
peut-être
bientôt.
Creuser davantage.
Bientôt. Donc, c'est un sujet. Parce que, disons que le papa est resté quelques jours à la maison, et là, il se rend compte effectivement que le petit mange comme 4. parce qu'au repas, ça ne l'empêche pas. Le fait d'avoir grignoté pendant la journée ne l'empêche absolument pas de manger ses repas. La dernière fois, il nous a scotché, il nous a mangé 3 assiettes avec risotto, poulet et poivron, sans aucun problème, alors qu'il avait mangé un biberon.
Moi, Caroline, je dis qu'il a le verre.
Non.
Il a le verre.
Moi, j'allais vous dire, vous savez,
je ris, évidemment.
Vous avez peut-être un petit garçon qui a un métabolisme de joueur de rugby et qui est en train de se bâtir le corps pour.
Mais Caroline, si vous êtes inquiète, surtout enceinte d'un deuxième, il ne faut pas vous stresser pour rien, poser la question au pédiatre. Hein.
Mais disons que c'est vraiment ces derniers jours où je me suis rendu compte que il mangeait quand même On a été avec le jour férié hier et la semaine dernière, j'ai passé quelques jours avec lui. Je me suis dit, mais c'est pas vrai.
Il est à la crèche restant habituellement, Caroline?
Il est à la crèche le lundi et vendredi, puis il est avec mes parents et mes beaux-parents deux autres jours sur la semaine, et moi je l'ai un jour semaine en congé parental.
Mais c'est ça. Et puis vous lui donnez pas des barres chocolatées et de la couenne de jambon?
Non.
Une barre chocolatée entourée
de couenne de jambon.
Comme ça, elle est bien calée.
Il adore les fruits. Donc,
Caroline, posez la question, mais a priori, vous stressez pas. Hein, il est en pleine croissance. Il y a 21 ans.
C'est pas de la gourmandise qui peut.
Et quand bien même.
Oui, c'est vrai qu'après tout, on l'écoute un petit peu.
Vous n'êtes pas ornosée, vous n'êtes pas un peu gourmande, Caroline?
Mais je vous avoue que là, pour le moment, non.
Allez, courage, on vous souhaite beaucoup de bonheur avec bébé numéro 2 arrivé. C'est pour quand, la naissance?
C'est pour janvier.
J'ai le temps de voir passer l'été et les fêtes.
Allez.
On vous embrasse, Caroline, au revoir. Je vous lis deux petits messages. Allez, celui de Colette, que l'on salue, qui nous dit « à que du bonheur de vous avoir dans la radio pendant que je retourne mon foin ». Donc elle est dans ses champs, ou son étable, et elle dit « à du 6 à l'heure ». Ah non, donc alors c'est dans son tracteur. « Mais j'ai des galettes de spéculoos avec moi », nous dit Colette. Voilà, que c'est meilleur quand c'est dans le café.
Vous êtes où?
Non, on ne l'a pas précisé. Quelqu'un d'autre nous dit « je pense que je suis boulimique parce que si j'ai de la nourriture à m'apporter, je mange sans arrêt, je ne me contrôle pas. Est-ce que cette impossibilité de résister à quelque chose, c'est un des symptômes de la boulimie?
Alors, on ne peut pas être sûr que ce soit de la boulimie parce que ça peut être aussi une crise d'hyperphagie. Donc, c'est juste une manière, c'est quand on n'arrive pas justement à s'arrêter et on mange énormément. Mais la boulimie, c'est vraiment à partir d'un certain nombre de calories, c'est vraiment excessif. Donc, il faut creuser un peu plus loin. On n'a pas trop assez d'éléments.
Tandis que l'hyperphagie, ça peut être par phase. Ça peut être à un moment, j'achète une galette des rois à l'époque de la galette des rois, je ne vais pas savoir prendre le morceau, je vais manger la galette pour 6 personnes, par exemple.
Ça peut être
une phase et puis reprendre un comportement tout à fait normal.
C'est pas nécessairement un trouble. On peut être hyperphage. Maintenant, si ça arrive trop souvent, effectivement,
J'ai que le 6 janvier.
Vous avez remarqué qu'on est très fort sur le massepain, hein, quand même. Parce que de nouveau, la galette des rois, hop, massepain. Focale.
Oui, amande, On va voir si Chantal est très massepain aussi ou pas. Elle est à Kugelberg. Bonjour Chantal.
Bonjour.
Soyez la bienvenue. Ça va, vous allez bien?
Oui, bien.
D'accord.
Oui.
Le massepain, c'est votre truc ou pas, Chantal?
Pas trop, non.
Pas trop. D'accord. Vous nous avez dit dans votre message que vous pensiez être assez orthorexique, mais que vous vous offriez un petit plaisir de temps en temps.
Voilà, c'est ça. Donc, je suis un petit peu comme... C'est Antoine, c'est ça? Je suis un peu comme lui.
Oui.
Je suis assez orthorexique. Et puis, je m'offre quand même un petit plaisir. Mais en même temps, souvent, après, ça ne me fait pas si plaisir que ça, parce que j'ai tellement perdu l'habitude. Genre, un petit plaisir, ça peut être un truc sucré. Et puis, finalement, ça ne me fait plus tellement plaisir que ça, parce que j'ai tellement perdu l'habitude de manger du sucre que...
Ah oui, vous n'êtes pas bien.
Que je ne suis pas bien. Donc, je suis un peu orthorexique, c'est-à-dire que je chasse le sucre sous toutes ses formes. Et donc, je fais très attention, mais je n'en souffre pas, hein, comme je disais. Hein. Moi, j'assume complètement et je me sens très bien comme ça.
Ouais,
hein.
Ouais.
Je suis très contente.
Culpabilisez pas non plus après avoir craqué?
Non, je ne culpabilise pas.
Ah oui, donc voilà. C'est important ce que Chantal dit. Elle dit, mais je n'en souffre pas parce que...
C'est ça. Du coup, l'orthorexie, normalement, on en souffre, mais qu'on soit conscient ou pas d'être orthorexique, il y a quand même une forme de souffrance. Donc le fait que vous n'en souffrez pas, je me demande si c'est pas simplement que vous faites juste attention et que vous vous trouvez un petit plaisir de temps en temps. Mais du coup, je n'appellerai pas ça forcément de l'orthorexie.
C'est parce que c'est peut-être un peu orthorexique dans le sens où je supprime toute une gamme d'aliments de mon alimentation. Et donc, c'est vrai que parfois, on me taxe un peu peut-être pas d'orthorexique, mais en tout cas un peu...
Et qui vous dit ça, Chantal?
Mon entourage, quoi. Mon entourage, parce que c'est vrai que je mange pas de pain, je mange pas de pâtes, je mange pas de... Voilà, donc...
Des raisons de santé? C'est parce que vous avez des intolérances?
Non, pas spécialement, mais parce que je supprime le sucre.
Mais donc vous supprimez le sucre et les glucides.
Voilà.
Les deux,
ça.
Voilà,
je tends vers le cétogène, parce que je mange des légumes, je ne fais pas attention aux légumes que je mange. Mais donc je tends vers le cétogène, low carb à effet. Mais donc j'ai vraiment manière très spéciale de manger. C'est dans ce sens-là que je dis que je suis un peu orthorexique.
Oui, oui.
Voilà, c'est vraiment...
Mais c'est parce que c'est complexe. Oui, moi, j'ai fait ça aussi. Mais ouais. Faites juste attention, consultez quand même de temps en temps une nutritionniste, parce que même inconsciemment, parfois les dosages sont pas justement opérés, et vous risquez des carences, en fait. Et en plus, on pense qu'on se fait du bien, et on n'en fait pas. En fait, il faut consommer des glucides de temps en temps, et la nutritionniste peut vous aider à consommer les bons glucides au bon moment.
Mais figurez-vous que hier, j'ai mangé à midi un spaghetti bolognaise.
Ah, mais voilà.
Mais alors,
oui,
félicitations,
mais alors...
Chantal.
Mais oui, où est-ce qu'on peut vous envoyer une carte?
Hier, c'était mon jour, à midi, j'étais à la maison, je me dis, ah, c'est cool, je fais un spaghetti et je vais en manger.
Oui, mais c'est ça, donc c'est pas de l'orthorexie, c'est plus, voilà. vous avez opté pour un mode alimentaire qui est vraiment le vôtre. Mais vous laissez place à du plaisir quand même.
Voilà, Chantal, est-ce que vous avez des enfants?
Oui, tout à fait.
D'accord.
Oui.
Et eux, ils vous disent quoi par rapport à ça?
Bon, ça leur est égal. Ils
font
comme ils veulent. C'est-à-dire que moi, je mange comme ça. J'ai un végétarien et puis j'ai un qui mange de tout. Plutôt un peu carnivore. Donc en fait.
Vous êtes dans le respect mutuel les uns des autres par rapport à ça.
Oui,
chacun mange un petit peu comme. Et donc, bon, c'est moi qui cuisine, donc moi je m'adapte un peu pour que tout le monde ait à manger.
Ouais. En fait, vous privez pas, quoi. Vous mangez ce que vous aimez, ce que vous choisissez de manger.
Oui. Absolument.
Bon, bah alors tout, j'ai envie de dire tout va bien. On peut dire Chantal, tout va bien.
On peut dire que c'est pas de l'orthorexie.
Non, j'appellerai pas ça de l'orthorexie, non.
Voilà, donc du coup, j'ai pas de trouble, c'est bien.
Vous pouvez mettre un post-it sur le frigo. Maman, n'est pas orthorexique. Ouais.
Vous refaites un bolo mercredi ou pas?
Mercredi prochain? Oui. Non, mercredi prochain pas. Je crois
une petite pomme de terre avec maillot.
Non, c'était jeudi. Oui, à mon avis, vous voulez venir, oui, le connaisseur.
Non, oui, bon, oui. Oui, bon, oui, pourquoi pas.
Allez. Écoutez, je
vous en prie. Bon après-midi, Chantal. Merci beaucoup de nous avoir appelés. Cet après-midi, nous parlons des troubles de l'alimentation avec Ingrid Richaud qui est notre invitée, avec Antoine Guillaume qui est le chroniqueur du jour. C'est vrai qu'on a pas mal de messages. On a eu à l'instant Chantal Kuckelberg qui nous disait qu'elle se trouvait orthorexique entre guillemets, alors qu'elle n'en souffre pas, qu'elle est très heureuse, qu'elle n'est pas du tout dans la privation. Est-ce que pour parler de troubles, il doit forcément y avoir souffrance? Et est-ce que la personne qui est anorexique ou boulimique ou orthorexique est toujours conscient de son trouble?
Non, il y a beaucoup de déni. D'ailleurs, dans l'anorexie aussi, beaucoup de filles ont du mal. Elles prennent longtemps avant de pouvoir mettre un mot dessus. Et l'orthorexie, bah pareil, c'est pas souvent conscient. Mais effectivement, pour parler de troubles, on doit parler de souffrance.
Ah oui, qu'elle soit physique forcément, mentale, morale,
physique,
aussi.
Émotionnelle, sociale, tout peut passer. Oui.
Oui. Est-ce qu'on peut très vite, j'ai envie de dire, aller dans des extrêmes? Est-ce qu'il faut être attentif à un trouble? Ou pour éviter justement, est-ce que proportionnellement on a plus de jeunes filles auxquelles il faut être attentif par peur justement que ça n'aille trop loin dans ou la boulimie ou l'anorexie par exemple?
Il faut être attentif. Alors oui, ça peut être progressif comme ça peut être très très rapide en fait. Donc c'est difficile.
Très insidieux.
Oui, ça peut être. Bon, en général, c'est plutôt insidieux.
Ah oui.
Oui, oui. Ouais.
Parce que ça s'installe quoi, sur des mois, sur des semaines, des années parfois.
Alors oui, parfois ça peut prendre des années avant de vraiment devenir le problème, mais il faut voir un petit peu l'entourage, les parents, l'influence des médias, si la personne se suridentifie aussi à l'apparence. Si par exemple, par ça je veux dire, pour elle l'apparence est tellement importante que s'il y a un problème avec ça, ou elle est un peu moins sûre d'elle, alors là.
Et on est particulièrement dans une ère où pour les ados. Il y a cette importance,
elle
cette surimportance
si
de l'image,
oui, entière, oui. En fait.
C'est voilà. Et avec toutes ces applications virtuelles sur lesquelles on peut mettre en scène son existence, il y a ce truc vraiment de photographie de la vie qu'il n'y avait pas du tout il y a encore 20 ans. Il y avait des prémices de ça, et bien sûr que l'apparence comptait dans les cours de récré, mais aujourd'hui on voit vraiment que ils sont obligés, on n'est jamais obligé de rien, mais cette espèce de vie virtuelle les amène à se créer des vies esthétisé comme ça, tout est perfectible on doit tout sublimer en fait, tout doit être sublimé, et donc j'imagine que quand
on recherche la perfection,
voilà, quand le corps ne correspond pas à un canon de beauté défini par tel ou tel j'ai pas envie de dire magazine, parce que les magazines aussi font des choses pour éviter maintenant ces clichés, mais quand ça ne correspond pas à telle personnalité médiatique qui a dit un truc sur le corps, ou qui a décidé que à partir de telle période il fallait avoir tel type de fesses ou tel type de seins, dès qu'on correspond plus, il y a des remises en question et c'est, on voit vraiment les corps changer.
Alors, on est d'accord qu'on est absolument pas dans le jugement par rapport à quelqu'un d'un peu plus rond, quelqu'un d'un peu plus mince ou quelqu'un qui fera attention à la manière dont il s'alimente. Là où il faut tirer la sonnette d'alarme, c'est que quand il y a des troubles, vous le disiez, il y a souffrance. Et puis qu'il y a parfois aussi des troubles associés. Ça peut être une forme de dépression, des troubles anxieux, des troubles obsessionnels compulsifs, ce qu'on appelle des TOC, l'abus de certaines substances, parce que forcément l'alimentation c'est aussi quelque chose qui peut nous rendre très addictifs dans un sens comme dans un autre.
Mmh. Oui, on peut quasiment dire que l'alimentation, dans certains cas, c'est une véritable addiction. Oui.
D'où la raison pour laquelle il ne faut pas être suivi uniquement par un médecin pour tout ce qui est biologique, j'allais dire physiologique ou endocrinologique. Le soutien psychologique a une part de plus de 50%, vous pensez, vous?
C'est énorme. J'ai envie de dire, c'est pas possible de parler d'alimentation sans parler de psychologie.
Ouais. Les deux sont liés. Et qu'est-ce qui vous a donné, vous, envie de vous spécialiser en tant que psychologue clinicienne dans les troubles du comportement alimentaire? Qu'est-ce qui vous a amené à ça?
Alors, à la base, j'ai côtoyé pas mal de personnes, justement, qui étaient mal dans leur peau. Moi-même, j'ai eu toutes mes questions à ce sujet-là. Et puis j'ai découvert, en fait, une approche qui m'a vraiment plu, qui aidait vraiment les personnes, justement, qui étaient en surpoids, mais aussi en sous-poids. Enfin, en tout cas, à les aider à trouver leur équilibre sur tous les plans, émotionnel, physique, mental et social. Et puis, en fait, donc je parle de l'approche du GROW, donc le groupe de réflexion sur l'obésité et le surpoids.
Oui.
Et je me suis vraiment spécialisée dans cette approche-là. Et donc, j'aide au quotidien des personnes qui souffrent de ça à retrouver un équilibre et puis surtout à trouver, à s'aimer, à avoir un autre regard sur soi.
L'image de soi. Ouais, l'image de soi. C'est terriblement...
Mais ce qui est terrible aussi, parce que l'image de soi, elle est liée aussi à ce que la société décide. C'est ce dont je parlais dans la chronique. C'est-à-dire que tant qu'on sera dans une société qui va décider de codes esthétiques prédéfinis selon des critères totalement subjectifs, on pourra pas être dans le vivre ensemble et dans...
Mais c'est normalement, a priori, on s'en fout de ce que les autres pensent, non ?
Je suis pas certain. Je pense que pour arriver à s'en foutre, il faut déjà avoir la capacité d'être en distance par rapport à soi-même, de pouvoir se dire que ce n'est pas si important. Or, on vous force à penser que c'est important parce que si vous pensez que c'est important, vous allez changer votre comportement pour consommer d'une certaine façon. Et si vous consommez d'une certaine façon, vous rentrez dans les codes. Et donc, il y a ce truc très... Tout est un peu lié.
Et puis, il y a énormément de marketing, justement, par rapport à essayer de créer une insatisfaction pour qu'on achète le produit. Donc, ça, c'est sûr que si on se fie aux médias pour...
Vous avez raison, Sandrine. Dans l'absolu, on s'en contrefout.
Complètement.
Voilà. Tant qu'il n'y a pas de douleur, tant qu'il n'y a pas de souffrance, et voilà, c'est pour ça que... On vient vous voir, j'imagine. Quand on souffre, on vient voir quelqu'un qui nous aide.
Ah ben j'espère.
Apprendre à redéfinir la beauté, ce que c'est la beauté pour cette personne-là aussi. Voilà, chacun est unique et la beauté, c'est de toute façon quelque chose qui inclut la diversité.
Et ce qui était intéressant, c'est que vous disiez que justement, parfois on souffre, mais on ne sait pas qu'on souffre. Parce qu'on est tellement dans le mode de fonctionnement.
Ah ben on parlera du déni dans un instant, oui. On parle donc des troubles de l'alimentation cet après-midi avec Ingrid Richaud, qui est psychologue, clinicienne. Je ne m'étais pas encore trompée cette semaine. Il fallait que ça arrive, spécialiste dans les troubles du comportement alimentaire avec Antoine Guillaume. On va à Jean Blou. Bonjour Sandra.
Bonjour.
Ça va Sandra ?
Ça va, oui.
Oui. Alors vous avez une ado à la maison qui a 14 ans. Un ado, pardon. Ah oui, vous avez bien écrit un, mais j'avais envie de vérifier pour être certaine. Qui a 14 ans, qui a fait la mononucléose.
Oui, au mois de novembre.
Ok, il faut pas mal de temps pour s'en remettre. Quand vous avez fait la prise de sang, il en était au début, au milieu, à la fin déjà ?
Non, il en était tout au début. Tout au mois de novembre, il était au début de la maladie. Et je vais dire directement, il a eu des problèmes au niveau alimentaire. Mais on nous avait dit que c'était normal avec la mononucléose.
Oui.
Et puis en janvier, très dur à reprendre au niveau alimentation. Donc on lui a donné des vitamines. Et puis ça ne passait pas, la fatigue était toujours là. Et puis maintenant, il est hospitalisé depuis 3 semaines.
Oui.
Et il n'y a pas de changement.
Et pour quelle raison, si je puis me permettre, pour quelle raison a-t-il été hospitalisé, Sandra ?
Ben parce que justement, l'effet de la mononucléose, je dirais, passé, et qu'il ne s'alimente toujours pas. Que si on ne lui demande pas de s'alimenter, il ne s'alimente pas, il n'a pas faim.
Et il a perdu du poids ? Il a perdu beaucoup de poids ?
Ben, disons qu'au début de la maladie, il était à 43 kilos. Maintenant, il est à 41 kilos 400. Mais il n'a plus de force, il n'a plus d'envie. Il est vraiment affaibli, quoi. Je veux dire, il fait 10 mètres à pied, mais directement, il a les jambes qui tremblent.
On a beau lui demander de manger.
Non, rien du tout. Mmh. Et, mais c'est pas lui qui n'a pas envie de manger. Il dit, lui, il a envie de manger, mais son corps ne lui demande pas de manger.
Oui. C'est vrai que la mononucléose, c'est complexe. Quand on la fait de manière très forte, il y a des tas de symptômes qui peuvent se manifester, notamment une baisse de l'appétit et une perte de poids. Il faut quand même préciser que c'est complexe, hein. Quand c'est une autre maladie ou d'autres symptômes qui provoquent la diminution de l'envie de manger ou de l'alimentation, c'est complexe à gérer.
Oui, c'est pas sûr de dire, enfin, on peut pas dire que c'est forcément un trouble alimentaire, mais en tout cas, c'est un effet secondaire, apparemment, de la mononucléose ici. Mais bon.
C'est vrai qu'à 14 ans, on est en pleine croissance, donc c'est un peu inquiétant en tant que maman. Mais les médecins ont l'air de vous dire quoi, Sandra? Ils vous rassurent par rapport à ça?
Mais eux, ils disent que la mononucléose, il est derrière nous.
Oui.
Et, en fait, oui, il aurait probablement un trouble, psychologique. Qui fait que, voilà, maintenant il n'a plus envie de manger, mais on a beau expliquer que c'est pas qu'il n'a plus envie, mais que c'est simplement le corps qui refuse de la nourriture, qui ne lui donne plus en fait la sensation de vouloir manger. Mm-hmm. Mais on nous remet tout le temps ça, au fait, les effets psychologiques, or que, voilà, mon enfant, avant de commencer la mononucléose, c'était un enfant qui mangeait super bien, qui faisait du sport, il avait une vie tout à fait normale comme tous les ados. Et puis comme ça, du jour au lendemain, je veux dire, et maintenant, il s'est même pas allé à l'école une journée complète, c'est pas
mais possible. Sandra, je vais poser la question à Ingrid. Déclencher soudainement un trouble de l'alimentation, alors ça peut paraître soudain parfois pour des parents, hein, on comprend très bien l'inquiétude ici d'une maman. Il y a d'autres cas, d'autres circonstances qui peuvent comme ça, soudainement, est-ce qu'on peut développer un trouble du jour au lendemain? Un choc, par exemple?
Ah oui, un choc émotionnel. Ouais. Mais bon, ici, ben, on n'a pas assez d'éléments.
Ouais, ouais,
donc,
bien sûr.
C'est une mononucléose, mais il faudrait voir s'il peut être suivi psychologiquement pour voir un peu plus ce qui se passe, effectivement, je pense.
Oui, ce serait.
C'est ce qu'on fait, hein, donc à l'hôpital. Et là, je vais dire 3-4 séances par semaine. Il a sa propre psychologue parce que, voilà, il a vécu des choses dans le passé. Mm-hmm. Et il a vécu un traumatisme assez important ici au mois de juillet. On se dit, ben, peut-être que ça vient de là, on ne sait pas. Hein, mais bon, du mois de juillet au mois de novembre, il n'a rien eu du tout. Quoi. Il était super bien, en super forme.
Mais en fait, ça vous déstabilise de ne pas comprendre pourquoi ça ne reprend pas normalement. C'est ça que vous voulez dire. Hein,
voilà, c'est ça, parce que je me dis, il était super bien. La mononucléose, tout le monde l'a fait. Enfin, je n'ai jamais entendu quelqu'un s'en sortir comme ça après une mononucléose. C'est vraiment la première fois. Et je me dis, mais c'est pas possible, c'est qu'il y a quelque chose. Pourtant, tous les examens médicaux qu'on fait, on leur a fait des prises de sang, abdomen, enfin tout, et tout est...
Mais il a perdu 3 kilos, c'est ça? 3 kilos?
Oui, plus ou moins. Oui, plus ou moins. Mais il est très grand aussi, il mesure 1m70. Maintenant, il est à 41,4 kg. En soi, c'est pas... Il était déjà grand avant la mononucléose. Il avait déjà, je veux dire, un poids normal qui a 42 kilos. Mais ici, c'est le fait de ne plus vouloir manger. Moi, c'est ça qui me tracasse.
Oui, je comprends bien, Sandra.
C'est manger deux petits pots de Force Plus par jour qui n'est même pas l'équivalent d'un Fortimel. C'est vraiment... on comprend pas avec mon mari, on est déstabilisé.
Je me doute, mais ce qui va me permettre d'embrayer sur effectivement l'entourage. En tout cas, merci pour votre témoignage, Sandra. Courage.
De rien.
Restez positive, d'accord. Et on vous embrasse très très fort, Sandra. Faites-lui confiance aussi à votre ado, d'accord.
Oui, merci.
Au revoir. L'entourage, quand il doit gérer, et surtout quand c'est le cœur d'une maman qui parle, on l'entend bien. Quand que ce soit de la boulimie, de l'anorexie, de l'orthorexie, c'est quelque chose qui peut être très paniquant, très flippant. Il faut pas minimiser ça, il faut aussi s'aider. C'est-à-dire que là, c'est vrai que vous recevez des personnes, vous, en tant que psychologue, qui ont des troubles de l'alimentation, mais je pense que l'entourage, s'il en a besoin, c'est bien aussi qu'il se fasse aider.
Oui, déjà, on peut souvent parler de thérapie familiale dans les troubles alimentaires, c'est souvent par là que ça se passe, parce que voilà, l'entourage joue un rôle très important. Parfois, on va dire que le trouble alimentaire, ça peut être l'arbre qui cache la forêt aussi, hein, donc on peut voir qu'il y a un autre trouble, en fait, beaucoup plus important, et que c'est plus facile de transposer le problème sur un trouble alimentaire plutôt que de penser qu'il y a un gros problème dans le couple et qu'il va peut-être y avoir une séparation, quelque chose comme ça. Donc parfois c'est plus facile de voir.
C'est aussi le cerveau est quand même parfois intelligemment bien fait. C'est aussi une manière, quel que soit l'âge, de je pense à des tout petits, hein, le fait que quand ils ferment la bouche, ils font pas manger, c'est bien attirer l'attention pour bien embêter maman. Quand on parlait tout petit dans leur chaise, qui d'habitude mange bien leur petit pot de Gervais qui la fait. On parle
parle des troubles de l'alimentation cet après-midi avec notre invitée qui est Ingrid Richaud, psychologue clinicienne spécialisée dans les troubles du comportement alimentaire. Je vous lis parmi les messages celui de Brigitte qui nous dit qu'elle mange presque rien d'après son message et qu'elle ne perd pas de poids. Donc en mangeant très très peu, pas dire presque rien, elle prend quand même du poids et qu'évidemment c'est très déstabilisant.
Mmh. Et il n'y a pas d'autres troubles médicaux?
Bah non, on l'a pas appelé. C'est juste son petit message que je vous lis comme ça. Parce que ouais. Ça pourrait être, oui. Alors, effectivement, on aurait tendance à dire, première étape, quand c'est comme ça, c'est d'aller faire un bilan sanguin, d'aller voir son médecin pour déjà voir si au niveau, ne fût-ce qu'endocrinien, tout se passe bien, etc. Mais imaginons que tout soit OK.
Si tout était OK, on peut regarder du côté du métabolisme de base. Donc, si la personne est plutôt sédentaire, et ben, effectivement, elle brûle très, très peu et au ralenti. Et en fait, plus elle va manger, enfin, moins elle va manger, justement, bah aussi plus ça va ralentir son métabolisme et donc du coup elle va brûler très 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 lentement et à chaque prise alimentaire finalement ça va commencer à s'accumuler dans les réserves puisque le corps il est presque en état de famine si elle mange très peu et que c'est ça, son mécanisme de survie de stocker et donc finalement manger peu pour maigrir en tout cas si c'est un but si c'est le but de cette personne ce serait vraiment une mauvaise idée parce que justement elle va stocker et son métabolisme va être complètement à plat.
Donc on est dans un cercle vicieux en fait.
Ouais, donc ce que je lui proposerais c'est plutôt de mettre en place un peu plus de sport ou de bouger, mais de trouver le plaisir de bouger, hein, pas se forcer à faire trop de sport, mais en tout cas, voilà, trouver le plaisir de bouger pour pouvoir retrouver un mécanisme normal de régulation en fait, de son poids.
Et le plaisir de manger, est-ce que c'est quelque chose que l'on peut retrouver aussi ? Sans être dans la culpabilité, sans être vraiment juste le plaisir de manger.
Absolument, c'est essentiel, même je dirais, c'est un plaisir de manger, donc ce serait triste de culpabiliser ou de se frustrer. Voilà, donc on peut, en fait, c'est justement en se permettant de manger ce qu'on aime que on va être équilibré avec ça, on va pas sentir la privation, mais c'est en se disant ah merde, c'est un aliment tabou.
Ouais.
Ok, donc du coup, je vais pas manger. Je vais résister, et puis après, bah, je vais le manger en excès pour compenser justement le fait de m'en être privé.
Il y a beaucoup de messages aussi d'auditeurs qui nous disent manger pendant la nuit. Certains disent ne pas s'en rendre compte. On avait eu un somnologue, le docteur Lachman, avec nous, qui nous parlait des troubles du sommeil et que effectivement, dans les troubles de somnambulisme, on pouvait avoir comme ça des personnes qui allaient se nourrir, manger pendant la nuit. Que heureusement, on peut trouver pas mal de solutions pour tenter de ralentir. Ça. C'est vrai que du coup, ça engendre aussi pas mal de culpabilité. On en revient quand on est en couple, c'est pas évident aussi de vivre en disant et entendre l'autre qui veut dire ah, tu vas pas encore te lever cette nuit, tu vas pas encore manger. Est-ce que venir en couple, c'est ça pourrait être aussi une solution. On parlait de famille tout à l'heure.
Oui, ça peut aider aussi parce que déjà, bah, c'est bien en fait d'avoir un soutien. Donc, si la personne pense que ça aiderait de venir, bah pourquoi pas, voilà, on peut en discuter.
Vous parlez de soutien, je sais plus, je pense que c'est Jacques Mercier qui nous avait fait une petite chronique et qui pointait du doigt toutes les phrases qu'il ne faut pas dire. Je sais plus dans quel cadre c'était, mais c'est vrai qu'il y a des mots à éviter. On veut parfois bien faire et on fait pire que bien avec certaines phrases du style tu ne devrais peut-être pas te resservir ou
En fait, il faut laisser la liberté à chacun, faut pas essayer de contrôler l'alimentation de l'autre parce que ça fait que couper la personne de ses sensations alimentaires. Donc chacun d'écouter ses envies, voilà, et de surtout pas faire culpabiliser l'autre parce qu'il n'a pas envie des mêmes choses ou de la même quantité.
Et puis surtout, qui est-on pour se permettre de donner un avis alors qu'on ne sait pas du tout à quel endroit du chemin alimentaire la personne se trouve, parce que parfois vous faites un commentaire mais la personne, bah, vous vous dites oh là là, tu manges beaucoup toi, t'as une grosse faim, hein.
Ouais, mais ça évite par exemple
ce ton, voilà, juste ce ton là peut déstabiliser totalement quelqu'un à qui on vient de dire il faut que vous reconsommiez énormément parce que parfois parfois, les régimes vous demandent de remanger davantage parce qu'on régule certaines choses et donc vous êtes dans cette phase-là. Et si à ce moment-là, quelqu'un vous fait un commentaire, donc on ne sait jamais en fait à quel endroit de chemin alimentaire se trouvent les gens. Donc
oui, et à l'inverse, il y a celles et ceux qui vous demandent de l'aide et qui disent « Allez, tu aide-moi, dis ne te resserre pas ou ne mets pas tous les plats devant moi. » Et puis après, effectivement, on voit la personne se lever, aller manger en cachette. Donc c'est très compliqué émotionnellement de pouvoir pouvoir gérer ça avec un regard extérieur.
Oui, et puis tout ça, ça se travail, franchement, mais chacun doit être responsable de sa manière de manger, en fait. Donc, si on demande de l'aide à l'autre de vite débarrasser les plats de la table, malheureusement, ça va que marcher sur du court terme. Mais il faut que cette personne-là, elle apprenne aussi à pas être dans la compulsion de devoir vite se resservir, ou alors qu'elle se pose les bonnes questions, que ça voilà.
Ça veut dire que les personnes qui ont des troubles de l'alimentation sont capables aussi parfois de pouvoir détourner les règles qui ont été mises en place, des règles qui sont censées les aider.
Oui, mais malheureusement, il faut regarder un petit peu si ça tourne pas vers la fuite ou l'évitement, parce que justement, si c'est détourné, c'est pas vraiment se poser les questions de manière plus approfondie. On est dans quelque chose de court terme. Donc voilà, c'est l'occasion d'en parler.
Si on veut travailler, effectivement, comme vous le faites, en accompagnement par rapport à des personnes qui ont des troubles de l'alimentation, alors je suppose qu'une personne n'est pas l'autre et son passé n'est pas celui d'une autre non plus, mais on va travailler sur quel laps de temps? Il y a des thérapies qui peuvent être très courtes, ça peut aller très vite, comme ça peut prendre des années aussi.
Ça dépend en fait combien de temps déjà cette personne elle a souffert de problèmes. Ça dépend enfin de beaucoup de facteurs en fait. Effectivement, ça pourrait aller vite si la personne a réellement envie de changer ses habitudes, mais c'est rarement le cas. Souvent, la personne a envie d'un résultat rapide, mais elle n'est pas prête à changer ses habitudes. Et donc là, ça prend beaucoup de temps déjà à débloquer toutes les résistances, parce que on remarque aussi pour les personnes par exemple en surpoids qu'elles ont beaucoup de résistance à perdre du poids. Malgré tout, elles ont envie effectivement d'avoir ce corps, rêver, tout ça. Mais en fait, ça impliquerait trop d'autres problèmes à côté. Donc il faut prendre le temps vraiment de débloquer tout ça, redonner vraiment l'envie. Il y a énormément de choses en fait qu'on ne voit pas.
Oui.
Quand on travaille le trouble alimentaire, mais qui
c'est
sont nécessaires.
À la limite, l'apparence physique de la personne, c'est la pointe de l'iceberg.
Exactement.
Et puis, il y a tout le reste qu'il faut travailler. Mmh. Bon, dans un instant, on se dira au revoir, et on se dira au revoir avec les citations, puisque la tradition veut que le chroniqueur termine avec quelques citations sur le sujet. Merci beaucoup, Ingrid Richaud, de nous avoir accompagnés cet après-midi.
Merci à vous.
Merci d'avoir donné de votre temps et de votre expérience. Je rappelle que vous êtes psychologue clinicienne spécialisée dans les troubles du comportement alimentaire. Avez-vous quelques citations sur l'alimentation?
Écoutez, oui, Virgile disait que la faim est mauvaise conseillère, alors que Socrate lui disait qu'en revanche, elle sert de condiment à la nourriture. Mais je crois que ce sont les Hollandais qui, avec ce dernier proverbe, ont vraiment tout compris, puisque eux vous disent « du hareng dans le pays et le docteur s'ennuie ».
Vous pouvez le dire avec l'accent.
Du hareng dans le pays et le docteur s'ennuie. Hein.
C'est beaucoup mieux comme ça. C'est beaucoup plus pimenté.
Voilà, écoutez,
merci beaucoup Antoine
avec
Guillaume.
Avec plaisir, Sandrine.